Bonsoir à toutes et à tous, 155e numéro de Wagon Livre, Yannick Petit au micro, comme chaque mercredi, depuis novembre 2010 à 21h, le mercredi sur Radion, c'est Wagon Livre, votre rendez-vous culturel. Merci en tout cas de nous être fidèles pour partir ce soir à la découverte du Brésil, d'une partie du Brésil. Mais c'est un roman qui est prétexte à ce départ pour Salvador da Bahia. J'espère que je prononce bien, je regarde mon invité, mais son sourire en tout cas m'encourage à continuer. Une émission riche en perspectives, entre rébellion de paysans sans terre, prise d'otages à l'aéroport, culte vaudou, rites ancestraux africains et sacrifice de coqs noirs. Une émission en forme de voyage et d'aventure avec notre invité que je vous présente tout de suite, Françoise Lassalle. Bonsoir et merci d'être ce soir devant le micro de Wagon Livre.
Bonsoir et merci de me recevoir.
Alors Françoise Lassalle, vous avez fait paraître l'an dernier un roman, c'est votre premier roman, aux éditions Raison et Passion, c'est une maison d'édition dijonnaise, et votre roman a pour titre « Du ciel ». Alors je vais dans un premier temps prononcer le titre, j'allais dire à la française, pour que les auditrices et auditeurs mémorisent et visualisent peut-être l'orthographe du mot « Du ciel au sertão ». Mais en portugais, il faut dire du ciel au sertão.
Sertão.
Une escale au Brésil. Avant d'aborder le contenu de votre roman, qui va nous tenir en haleine jusqu'à 22h, Françoise Lassalle, je ne sais que très peu de choses de vous. Je ne sais que ce que la quatrième de couverture veut bien nous dire, à savoir que vous avez un diplôme d'études approfondies en civilisation de l'Amérique latine. Vous avez été un temps enseignante et puis finalement, la grande partie de votre carrière professionnelle s'est passée d'aéroport en aéroport, d'avion en avion. Vous avez été en fait navigante, chef de cabine à Air France.
C'est cela, oui.
Donc nous savons presque tout de vous. Comment êtes-vous devenue navigante à Air France ?
Bon, j'ai pris cette décision alors que j'étais au moment où je suis rentrée à Air France, j'étais en troisième année de licence d'espagnol, et je suis rentrée pour voyager un petit peu, pour 2 ou 3 ans. Et parallèlement, j'ai continué, donc j'ai fait une maîtrise espagnole, un DEA, qui portait sur les civilisations d'Amérique latine. Et puis finalement, j'étais tellement bien, tellement à mon aise dans ce métier, et tellement heureuse de pouvoir voyager, que je n'ai plus quitté cette compagnie, et j'y suis restée pendant plus de 20 ans. Et lorsque j'ai quitté Air France, j'ai repris mon métier d'enseignante. Je suis redevenue professeure d'espagnol dans le cadre à l'éducation nationale, hein, dans Lyon. Voilà, et maintenant je ne travaille plus, bon, j'écris, voilà.
Alors vous résidez dans Lyon,
oui.
Peut-on vous demander où vous profitez de cette retraite méritée, je l'espère?
Oui, alors j'habite au fin fond, de, si je puis dire, de la Puisée. Hein, mon mari, une partie de la famille de mon mari étant de la région de Saint-Fargeau, Blénaud, enfin ce coin-là. Et je partage mon temps donc entre la Puisée et le Pays Basque, puisque ma famille, ma mère, mes frères et sœurs et mes grands-enfants sont au Pays Basque. Je suis de Bayonne, voilà.
Merci Françoise Lassalle pour ces précisions. Alors nous, on va puiser un petit peu nos racines, plonger nos racines dans le Brésil. Du ciel au sertão, une escale au Brésil, premier roman. Je plante le décor, Françoise Lassalle, ou je vous laisse le planter? Je le fais.
Vous pouvez.
Alors, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre roman. Vous savez, tout l'enthousiasme qui me guide ce soir et le plaisir que j'ai à justement partager ce roman avec celles et ceux qui nous écoutent. L'action de votre roman se situe en 2008. Alors, on fait connaissance avec donc des Français, hein, d'une compagnie aérienne française. On fait connaissance avec les différentes femmes et hommes avec lesquels on monte dans cet avion qui fait la liaison donc, de la France vers le sertão. voyage se passe agréablement avec, bon, Maud, par exemple, une des hôtesses, chacune a son caractère, mais Maud, par exemple, elle aime beaucoup aller en première, draguer un peu des hommes fortunés. Bon, tout se passe bien dans ce voyage, on est totalement à l'aise, et puis on atterrit à cet aéroport de Sertan, et là, il y a un groupuscule d'hommes qui kidnappe, c'est une prise d'otage, une partie de l'équipage et des voyageurs sont kidnappés par des paysans sans terre qui veulent faire un coup d'éclat médiatique. Je vous ai dit combien je les trouvais plutôt sympathiques. Ils ont des revendications. Il semblerait que le seul moyen dont ils disposent pour se faire entendre, c'est de passer à l'action. Alors l'action, bon, on va dire terroriste, peut-être aux yeux des autorités brésiliennes. Et voilà que nous accompagnons nos kidnappés dans un terreiro, c'est-à-dire un lieu de culte de la religion candomblé dont nous aurons l'occasion de parler. Et puis ensuite, les kidnappeurs vont à nouveau se déplacer pour fuir les autorités policières. Et là, on se retrouvera dans une communauté catholique, mais au milieu de la forêt et au bord d'un fleuve. Voilà. J'ai posé le cas. Donc nous sommes dans le Brésil de 2008, c'est-à-dire qu'on est quand même, au début, loin du folklore, des danses rituelles, du carnaval de Rio ou des plages d'Ipanema ou de Copacabana, on est dans la réalité d'un Brésil que vous connaissez bien, semble-t-il, au regard des informations, de certains chiffres qui sont donnés sur un pays en plein boom économique, mais qui connaît aussi de terribles injustices sociales.
Oui. Mmh.
Que pouvez-vous nous dire de ce Brésil et comment cette rencontre s'est-elle effectuée avec le Brésil pour le placer comme ça au cœur de votre roman ?
Alors, tout d'abord, le Brésil était ma ligne de prédilection, hein, comme je parle espagnol et portugais. Donc, pendant plusieurs années, j'allais tous les mois au Brésil. Et bon, c'est pas suffisant pour découvrir un pays, mais pour s'y sentir bien, c'est déjà, pour avoir des repères, c'est déjà bien. Et j'y retournais pendant mes vacances. Alors là, dans des conditions différentes, pendant les vacances, j'y retournais avec mon sac à dos et je dormais très souvent chez l'habitant ou dans des petits hôtels. Et souvent, je partais toute seule parce que j'aime beaucoup voyager seule parce que ça permet de mieux d'être beaucoup mieux reçu par les gens, par les autochtones. Lorsqu'ils voient quelqu'un de seul, ils ont envie de l'aider, de partager, de leur faire découvrir des choses. Et en plus, en tant que Française, j'avais la chance de profiter de la bonne réputation. J'ai commencé à voyager dans les années 70. Et la France a quand même a conservé une aura au Brésil assez intéressante. Donc, dès qu'on est repéré comme français ou française, on est tout de suite bien accueilli. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du touriste américain.
Et donc, ce Brésil, ça pourrait être votre deuxième nation ?
Oui, c'est mon pays de cœur. Oui, mon pays d'adoption de cœur. Voilà. Et donc, j'ai situé l'action dans le Nord-Est. Parce que, effectivement, ce vol était initialement prévu pour Rio, mais pour des raisons de contraintes techniques, il faut faire une escale à Bahia, bon, pour faire un plein de kérosène. Et là, les choses se précipitent, effectivement. Bon, alors que tout s'est bien passé, le vol est normal, bon, voilà, une partie, quelques passagers et une petite partie de l'équipage se retrouvent embarqués. Dans un minibus et il va s'en suivre une sorte de road story à travers le nord-est brésilien. Voilà.
Alors c'est une histoire que vous avez totalement inventée.
Oui.
Mais les éléments humains des personnels navigants, je suppose que vous avez fait appel à vos souvenirs.
Alors, il y a une fiction, mais je pourrais dire que, mis à part la fiction, tout est vrai. Les personnages, les types psychologiques de chaque membre du personnel correspondent vraiment à ce que l'on rencontre dans un équipage, dans un avion. Ça correspond aux gens avec lesquels j'ai travaillé. C'est pourquoi les personnes sont si différentes, les profils si variés. Ensuite, tout ce que je dis sur le Brésil est absolument vrai. C'est absolument vrai, mais ce sont donc ça a une valeur de carnet de voyage un petit peu à ce niveau-là, mais ce sont des réalités dont on ne parle pas dans la presse, bon, enfin pas dans les médias, tout au moins quand on regarde les émissions en France sur le Brésil, soit ça parle du carnaval, soit ça parle des favelas, de Rio, de l'insécurité, mais ça ne parle pas des lieux de culte vaudou, puisque le candomblé vient du vaudou. Ça ne parle pas des luttes des paysans pour leur survie, tout simplement, pour avoir des terres. Et donc, les choses sont vraies, mais bien sûr, l'intrigue est complètement fictive.
Alors, on en reparle de l'intrigue, on reparle du culte vaudou et du candomblé dans une poignée de minutes. On va marquer, si vous le voulez bien, Françoise Lassalle, une première petite escale musicale. On écoute Noah Moon et Magic is Everywhere. Alors, ma foi, si la magie est partout, en tout cas, elle est aussi ce soir avec nous. Et grâce à vous, on se retrouve dans quelques minutes avec Françoise Lassalle.
Magic is everywhere. Do-do-do-do-do-do. Magic, oh magic. Do-do-do-do-do-do. Magic is everywhere. Do-do-do-do-do-do. Magic, oh magic is everywhere.
Ce soir avec notre invitée Françoise Lassalle pour son roman disponible aux éditions Raison et Passion, roman qui a pour titre « Du ciel au certain, une escale au Brésil ». Françoise Lassalle, premier roman qui effectivement est placé sous la citation d'un écrivain voyageur, Nicolas Bouvier, que je cite, et que, donc, citation qui se trouve au tout début de votre roman, « On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. » Alors, Françoise Lassalle, vous qui avez parcouru ce Brésil à pied, en autostop, en train, vous qui avez ensuite mené pendant une vingtaine d'années une carrière de navigante dans une grande compagnie d'aviation française, ce voyage aussi, ces voyages accumulés aux quatre coins du monde, dans des conditions différentes, vous ont modelé ?
Oui. Oui, parce que...
Est-ce que aujourd'hui, après avoir écrit ce roman, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce que les voyages ont modifié en vous?
Alors...
C'est peut-être difficile.
D'abord, je dirais que... tout dépend du voyage. Pour moi, le voyage, c'est d'abord aller vers les autres. C'est d'abord découvrir des gens. Bon, c'est le premier centre d'intérêt, aller vers l'autre. Ensuite, viennent les paysages. Bon, c'est vrai que je suis aussi contemplative, j'aime les beaux paysages. Et je dirais en dernier lieu, les monuments, l'architecture. Non pas que ce ne soit pas intéressant, mais je parle dans l'ordre de mes priorités.
Et les aspects gourmands. Par exemple, les acarajés ou les beignets de pâtes de haricots. Les acarajés, les beignets de pâtes de haricots. Il y a la Brahma, qui est une bière locale dont vous parlez. Tous ces aspects-là vous séduisent.
À propos de cette immersion, Michel Déon a dit « Pour bien aimer un pays, il faut le boire, le manger et l'écouter chanter. » Bon, c'est peut-être pas, les termes ne sont peut-être pas très exacts, mais ça révèle, quand on aime un pays, on a envie de parler la langue, de discuter avec les gens, de manger les produits locaux et de vivre comme tout le monde.
Mais vous, Françoise Lassalle, un des atouts aussi, c'est qu'il n'y avait pas la barrière de la langue. Quand on est en Amérique du Sud, avec l'espagnol et le portugais au Brésil, incontestablement, on s'exprime aisément et on peut échanger. Et finalement, je devine en vous une humaniste.
Oui, on peut dire cela, oui. Mais les gens sont très touchés aux efforts que l'on fait pour parler leur langue. Et donc, même si de temps en temps, bon, ça m'arrive encore, je ne possède pas en espagnol, en portugais, je veux dire, j'ai pas une parfaite connaissance de la syntaxe, des conjugaisons, donc, mais les gens s'en moquent. J'arrive à me faire comprendre, je les comprends.
Il y a une complicité liée au fait que cette Française fait tous ses efforts pour communiquer et rentrer en contact avec nous. Est-ce qu'il y a des voyages qui font peur? Parce que voyager, c'est aussi l'inconnu. Il y a le voyage qu'on organise, un petit peu trop bien préparé, étape après étape. Et puis, il y a ce voyage qui fait peur. Alors, c'est un peu, pardonnez-moi de le dire, parce que je n'aurais pas ce courage de partir sac à dos comme ça, faire de l'autostop, gros chaussures aux pieds, de partir comme ça avec un plan, quelque argent en poche, partir comme ça un peu à l'inconnu.
Bon, d'abord, je voyageais comme ça quand j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, je n'ai plus du tout envie de voyager de cette manière, c'est sûr. Il y a un temps pour chaque chose. Mais je n'aurais pas voyagé comme cela en Asie, parce qu'en Asie, je me serais sentie perdue. En Asie, ça aurait été plus difficile de sortir des sentiers battus. Mais en Amérique latine, j'ai toujours eu une aisance. Une aisance qui vient au fait de posséder la langue, oui, de connaître l'histoire, de pouvoir parler avec les gens de tas de sujets qui correspondent à leur quotidien, à leurs préoccupations. Et puis, je me sens bien. Donc, peut-être que j'étais imprudente, peut-être, mais j'étais tellement moi-même que il ne m'est jamais rien arrivé que de bon.
Parlons de ce Brésil que vous montrez en partie dans votre roman, avec les préoccupations donc de paysans sans terre qui revendiquent un partage équitable des terres. Alors, 30 millions de Brésiliens, rappelez-vous dans le roman, vivent sous le seuil de pauvreté.
Oui.
Et puis, ce mouvement des travailleurs ruraux sans terre, mouvement qui donc kidnappe nos héros, déclare à un moment « Lula n'a pas tenu sa parole envers les peuples indigènes. Nous sommes toujours en train de récupérer les territoires dont nous avons été dépossédés. Nous devons sans cesse lutter pour la reconnaissance de nos terres alors qu'elle est inscrite dans la Constitution depuis 1988. Pire, lorsque nous parvenons à les récupérer, on nous conteste la jouissance de ces ressources. » Et on voit bien dans votre roman, Françoise Lassalle, vous parlez de la grève de la faim d'un évêque, Don Luis Capio. On voit bien qu'il y a, au Brésil, des femmes et des hommes qui veulent le changement, mais que tout n'est pas possible. Tout n'est pas permis, semble-t-il.
Oui, il y a beaucoup de résistance. Effectivement, Lula a fait beaucoup pour améliorer le sort des plus défavorisés. Et il y a eu des lois, il a attribué des titres de propriété à des paysans sans terre, à un certain nombre, que l'on appelait les poceros, c'est-à-dire ces paysans cultivaient des terres qui ne leur appartenaient pas. Donc il a régularisé, mais ça, il y a une opposition des grands propriétaires terriens, et puis ces grands propriétaires terriens ne se laissent pas intimider par de nouvelles lois. Ils ont leurs milices et beaucoup de ces paysans sont chassés de terres qu'on leur a pourtant attribuées de manière officielle. Et on les pousse à revendre leurs titres nouvellement acquis. Et donc ça, c'est pour le problème des paysans sans terre. Pour les problèmes de la Constitution de 88, effectivement, protège les Indiens en disant qu'ils sont propriétaires de leurs terres et que toute la jouissance qui provient de leurs terres est pour eux, toutes les richesses qui proviennent, ces Indiens ont la jouissance des richesses qui proviennent de leurs terres et du sous-sol. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. La preuve en est avec le détournement prévu là, du fleuve San Francisco. Et quand vous parliez de 30 millions de Brésiliens, il s'agit du Nord-Est, hein, on reste dans la région du Nord-Est, je voulais préciser.
Je vous ai présenté comme une humaniste, premier roman, l'occasion bien sûr d'utiliser ses souvenirs de navigante, de chef de cabine, et j'allais dire aussi, derrière Françoise Lassalle, romancière, une femme qui s'implique, qui nous prend en otage gentiment grâce à son histoire, en nous disant « mais ayez conscience des injustices aux quatre coins du monde et des problèmes écologiques ». Parce que ce qui est aussi formidable, c'est que votre roman nous met en face de peut-être future catastrophe écologique dans ce pays, le Brésil, qui est quasiment un continent à lui tout seul de par sa dimension. Alors, vous mettez en scène justement un échange très vif entre deux hommes. Il y a Érico qui travaille pour une compagnie qui est la Nationale Biodiesel, qui donc, en fait, se livre à la culture du soja pour le transformer en carburant, si j'ai bien compris. Et il y a Romualdo qui est un paysan sans terre, et ce qui est merveilleux aussi, c'est cet échange assez respectueux entre ces deux hommes qui nous fait bien comprendre les enjeux et qui nous rappelle, j'allais dire tristement, que l'argent reste le maître du monde. Des préoccupations sociales comme ça qui vous habitent, Françoise Lassalle, l'envie de pousser un cri au milieu de ce roman?
Oui, mais bon, sans entrer, il ne s'agit pas de faire de la politique, mais il est évident que ce personnage, Érico, est à la fois, il ne s'agit pas d'entrer, de faire de la dichotomie, le gentil pauvre et le méchant riche, hein, on est loin de tout ça. Justement, ça montre un petit peu l'ambiguïté, parce que cet Érico, qui travaille donc pour une grande entreprise qui exporte du biodiesel, il n'est pas plus méchant que quelqu'un d'autre. Il se trouve qu'il est fils d'un propriétaire terrien, donc sur la fazenda, et il explique bien que en tant que propriétaire terrien, dans sa fazenda, il y a des terres réservées à l'agriculture traditionnelle familiale pour les paysans, qu'il y a des écoles gratuites,
un dispensaire,
une assistance technique. Bon, et le reste, effectivement, est dédié à la production de soja ou autres, qui sont destinés à la fabrication du biodiesel,
effectivement. On va se quitter pour une nouvelle petite pause musicale. On aura l'occasion de revenir sur l'aspect écologique. Et notamment, je trouve aussi un très beau passage, vous donner la parole à un chef indigène, un cacique, qui en fait va déclamer un texte qui est très poétique, à la fois avec cet anaphore et mettant totalement en relief et en avant le règne animal ou le règne végétal pour montrer les dégâts que l'industrie peut faire, notamment avec le détournement de ce fleuve San Francisco. On en reparle dans quelques minutes. On s'offre à nouveau et on offre à celles et ceux qui nous écoutent une nouvelle escale musicale. On écoute John Newman et le titre c'est Losing Sleep. On se retrouve dans quelques minutes avec Françoise Lassalle, notre invitée, pour son roman Du ciel au serpent, une escale au Brésil. Et c'est aux éditions Raison et Passion.
It's 3 a.m. I'm calling in to tell you that without you here, I'm losing sleep. I'm losing sleep. Every sound around this lonely house is leaving me filled with fear. I'm losing sleep. I'm losing sleep. I'm losing sleep.
Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que vous êtes monté à bord de Wagon Livre, un wagon livre qui nous dépayse en ce début de printemps 2014. Nous sommes ce soir avec Françoise Lassalle qui signe aux éditions Raison et Passion un premier roman qui a pour titre « Du ciel au certain », une escale au Brésil. Alors nous parlions des préoccupations écologiques qui animaient les personnages dans une polémique dans le roman. Et Françoise Lassalle, vous allez nous lire justement le passage où une sorte de sage, un indigène, un cacique, célèbre la nature, mais met en garde aussi les hommes contre une surexploitation des richesses que les divinités nous offrent.
Le cacique se lève, croise les bras sur sa poitrine et se met à parler avec émotion. Notre mère nature pleure. Si les poissons étaient dotés de paroles, ils diraient combien ils souffrent lorsqu'ils absorbent le mercure et autres polluants déversés dans le vieil Opara. Si les plantes aquatiques avaient une bouche, elles crieraient leur douleur d'être empoisonnées. Si l'homme voleur d'eau était plus avisé, il saurait interpréter le chant de mort de nos rivières. Si l'homme qui a soif savait mieux regarder, il verrait les craquelures de la terre du Sertan qui ne peut même plus boire après les rares pluies. Si l'homme savait regarder la terre balafrée, amputée de ses arbres, il entendrait les plaintes jaillir des mille gueules béantes des souches moribondes. Si la convoitise de l'homme ne lui bouchait pas les oreilles, il entendrait les mises en garde des grands esprits qui lui crient de rester humble et à l'écoute de la nature, de cesser de vouloir la soumettre à ses exigences au risque de détruire le monde.
Merci Françoise Lassalle pour la lecture donc de cette incantation et mise en garde donc du cacique, hein, le chef d'une tribu indigène qui s'exprime dans votre roman « Du ciel au certain, une escale au Brésil ». J'ai dit combien on voyageait ce soir sur Radion, grâce à vous et grâce à votre roman. On voyage aussi dans un univers culturel qui est loin du nôtre. Et je pense notamment à cette religion du candomblé. Alors, j'avoue, pour ma part, très vaguement avoir entendu parler, bien sûr, du culte vaudou, puisque le candomblé, c'est un héritage ou une...
C'est du vaudou.
C'est du vaudou.
C'est du vaudou. Alors, c'est le vaudou au Brésil.
Alors, ce candomblé, en fait, c'est une religion qui, quelque part, est venue d'Afrique.
Oui. Alors, ben, les esclaves ont emporté avec eux leur mémoire. Hein. On les a dépouillés de tout, mais on ne pouvait pas les dépouiller de leur mémoire. Et ils ont continué de pratiquer leur rite. Or, il se trouve que les Portugais, les colons portugais, interdisaient la pratique de ces rites et voulaient imposer le catholicisme. Et les esclaves ont toujours perpétué leur rite, mais lorsqu'on s'en apercevait, ils se retrouvaient attachés au pilori et fouettés. Et donc, pour tromper la vigilance des Portugais, ils ont fait semblant d'adopter le catholicisme. Alors, ils allaient à la messe, ils priaient, et peu à peu, mais d'une manière sous-jacente, ils pratiquaient leurs rites africains. Et peu à peu, un syncrétisme a découlé de ces deux religions pratiquées parallèlement, si bien que il y a tout un panthéon de divinités africaines qui ont chacune leur correspondance chez les saints catholiques. Par exemple, Yemanja, dont on parlait, Yemanja est la déesse africaine de la mer. Bon, elle correspond à la Vierge Marie. Hein, voilà. Sainte Barbe ou Sainte Barbara correspond à Yansa, la déesse des vents et des tempêtes. Alors, par exemple, il y a de grandes fêtes pour la Sainte Barbara, et ce jour-là, tout le monde est habillé en rouge et blanc parce que ce sont les couleurs de Yansa. Et toutes les fêtes catholiques, finalement, elles débutent dans les terreros, les lieux de culte, elles débutent par des offrandes aux divinités africaines. Ogoum, je crois, correspond à Saint-Georges, enfin, je ne sais plus, oui, ça doit être lui. Oshala, c'est Dieu le Père. Ils ont tous leur correspondance. Et on a Eshu, qui est un esprit un peu malin. Alors, on l'a associé à Satan, ses couleurs sont le rouge et le noir, mais il n'est pas aussi démoniaque et malfaisant, tout au moins dans le conte d'Emblée, que Satan, mais c'est un esprit qu'il faut... C'est le messager entre les dieux. C'est le messager entre les hommes et les dieux. Eshu, voilà, c'est beaucoup plus, c'est pas un simple démon.
On lui fait des sacrifices.
On commence toujours par lui, parce qu'il faut se concilier Eshu avant toute démarche. Parce que Eshu pourrait faire des siennes. C'est une divinité espiègle, fantasque, imprévisible, qui peut tout faire foirer. Donc on commence par lui faire son offrande. C'est le padé des Eshu. Voilà. Et après on peut aller à l'église, baptiser le dernier nouveau-né, on est tranquille, on a fait la petite offrande à Eshu avant, donc il va pas venir troubler les cérémonies, et tout est comme ça.
Et Françoise Lassalle, est-ce à dire qu'au Brésil, on peut être catholique et également assister à des séances du candomblé?
Oui, complètement.
C'est pas incompatible. La religion catholique ne réprime pas et ne regarde pas le candomblé, forcément comme quelque chose de païen, mais ne regarde pas le candomblé comme interdit ou subversif.
Au début, c'était interdit, c'était subversif, il y a eu beaucoup de répression, mais maintenant, c'est une religion tout à fait autorisée et reconnue. Et le syncrétisme évolue. Bayam est dans le nord du Brésil. Plus vous êtes dans le nord, plus les racines africaines sont pures. Le candomblé, là, c'est le vaudou. Et d'ailleurs, les chefs de culte essaient de lutter contre le syncrétisme. Ils veulent de moins en moins de ce mélange avec le catholicisme. Ils veulent garder les racines pures africaines. Plus on va vers le sud, vers Rio, et ensuite encore plus bas vers São Paulo, plus on va vers le sud, plus ces racines africaines se diluent au profit du catholicisme, mais surtout au profit du spiritisme. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, Allan Kardec a connu un succès énorme au Brésil, dans la bourgeoisie. C'était dans la bourgeoisie. Et il y a eu énormément de sectes spirites, et puis beaucoup d'amalgames, ainsi que les croyances indigènes aussi, les croyances indigènes, les esprits des Indiens. Alors là, on tombe dans la Macumba et l'Ubanda, ce sont des rites différents du candomblé, mais alors là, qui intègrent à la fois le candomblé africain, le catholicisme, des rites indigènes, du spiritisme, et tout ça fait un beau cocktail de croyances, de rites. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout marginal. Ce n'est pas énorme. La population blanche aussi pratique le candomblé. Alors les Noirs sont majoritaires. De toute façon, les Noirs sont majoritaires déjà dans la population de Bahia. Ils doivent représenter 90% de la population. Mais il y a également des initiés blancs dans ces religions. Et le ministre de la Culture sous Lula, Gilberto Gil, est lui-même initié. Il est fils de Xangô.
Et vous, Françoise Lassalle, êtes-vous initiée au rite et cérémonie du candomblé?
Non, mais j'ai assisté à énormément de cérémonies. Et j'ai lu beaucoup d'ouvrages d'ethnologues, d'anthropologues comme Roger Bastide. Plus récemment, on a Stefania Capone qui a fait une excellente thèse de doctorat aussi, donc qui est plus actualisée que Roger Bastide, c'était excellent aussi, mais dans les années 50. Et puis il y a l'œuvre du photographe et ethnologue Pierre Verger, qui lui s'est fait initier. Mais la plupart des ethnologues se sont fait initier pour étudier ça de l'intérieur.
Et vous n'auriez pas été tenté plutôt par un essai sur le camp d'Omblée plutôt que de l'inscrire dans le roman, quand bien même les pages sont absolument passionnantes et réussies, je
oui,
dis.
Mais c'est-à-dire que j'ai vraiment intégré, je ne suis pas initiée, parce que là il aurait fallu que je vive quand même au Brésil, que je m'investisse, et bon, ma vie a été autre, bon, j'ai une vie familiale, je n'allais pas planter tout le monde pour aller me faire initier. Mais effectivement, entre toutes les œuvres des ethnologues que j'ai lues, parce que c'est passionnant, les terreros que j'ai visités, les discussions, j'ai discuté avec des chefs de terreros merveilleux, qui voyant justement que je ne faisais pas du tourisme ésotérique, j'étais sincèrement intéressée. Et donc, on a pu avoir de grandes conversations. J'ai assisté à des cérémonies. J'ai pu partager les repas, puisqu'ils cuisinent avant les cérémonies. Il y a toute une cuisine sacrée qui se réalise, qui est offerte aux dieux. Et à la fin des cérémonies, les fidèles se partagent ce repas. J'ai été invitée. Alors, je n'ai pas pu voir tout, évidemment. Il y a des choses qui demeurent secrètes. Donc... Mais c'est passionnant.
Vous décrivez dans votre roman, oui, par exemple, le sacrifice du coq noir, oui, la préparation des herbes spécifiques. Là, c'est pour Échou, c'est pour, oui, calmer Échou.
Oui,
c'est dans votre roman.
Oui. Et chaque dieu a ses herbes, d'ailleurs. Et les herbes sacrées jouent un rôle très, très important. Hein. Mais le rôle le plus important dans les rites de possession, puisque c'est ça, ces cérémonies sont destinées à faire descendre les divinités africaines dans leur médium. Ces médiums, on les appelle, ce sont les chevaux des dieux, puisqu'ils les montent, ils les investissent, comme ils s'incarnent en eux. Voilà.
Françoise Lassalle, merci. On reparle du camp d'Omblée après une nouvelle pause musicale. Non, nous n'écouterons pas un cantique destiné à appeler les dieux. Et Allan Kardec ne s'est pas manifesté autour de nous. Je voudrais d'ailleurs, ça n'a aucun rapport, je voudrais remercier monsieur et madame Barbe de l'hôtel Avalon-Vauban de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cette émission. On écoute Passenger qui nous interprète Hall. On se retrouve dans quelques minutes avec Françoise Lassalle pour Du ciel au sertan, une escale au Brésil, et on reparlera du camp d'Omblée et de ses rituels.
I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, "I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble," he said. "But now the money's gone, life carries on, and I miss it like a hole in the head. Oh, now." I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucker never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked, so why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, now that he's gone, well, life carries on, and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change, you can't choose, and sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts, yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Where we've got holes in our hearts, yeah, we got holes in our lives. Where we've got holes, we got holes, but we carry on. Where we've got holes in our hearts.
Yeah, we got hopes in our hearts. Yeah, we got hopes in our lives. Where we got hopes, we got hopes, but we carry on. Say we got hopes in our hearts. We got hopes in our lives. We got hopes, we got hopes, but we carry on. Say we got hopes in our hearts. We got hopes in our lives. We got hopes, we got hopes, but we carry on. Say we got hopes in our hearts. Yeah, we got hopes in our lives. Where we've got holes, we've got holes, but we carry on.
Retour à bord de Wagon Livre avec notre invitée Françoise Lassalle pour son roman Du ciel au serpent, une escale au Brésil, roman disponible aux éditions Raison et Passion. Françoise Lassalle, qui a un DEA d'ethnosociologie des religions en Amérique latine, qui a été un temps professeur d'espagnol, mais qui a surtout mené une longue carrière de chef de cabine à Air France, hein, on peut le dire. Et nous parlions justement du camp d'Omblé. Eh bien, Françoise Lassalle, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous lire un extrait de votre roman. Il s'agit, je situe le passage, c'est la deuxième partie de la cérémonie alors que les initiés sont déjà en transe.
Chacun reprend sa place. L'assistance sur les bancs, les musiciens devant les tambours et le chef de culte au centre de la pièce. Au son des atabaques, les tambours, les orishas reviennent en tenue d'apparat. La ronde se reforme. La danse extatique reprend. Lorsqu'un danseur s'approche du puits d'énergie concentré au centre de la pièce, son corps courbé est parcouru de convulsions. Les danseurs ne sont plus les filles et les fils des dieux. Ce sont les dieux eux-mêmes qui dansent, venus d'Afrique, incarnés dans leurs enfants brésiliens. Les orishas relient ainsi l'Afrique au Brésil. La plaque des continents se ressoude en une fusion spirituelle et cosmique. Distance et océan sont abolis, comme s'il n'y avait jamais eu de dérive. Les orishas défilent en cercle, saluent les tambours, s'allongent aux pieds du chef de culte. Les costumes chatoient sous l'éclairage. Ogum, revêtu d'un costume bleu roi de chef guerrier, porte un casque en argent et une épée. Oshumare arbore les couleurs de l'arc-en-ciel et le serpent de cuivre qui s'entortille autour de son bras siffle à intervalles réguliers. Omulu, couvert de pustules, dissimule entièrement son corps et son visage sous un costume de paille. C'est à lui que l'on va adresser plus tard les prières de santé. Yemanja, dans sa belle robe blanche et bleu ciel, tient un poisson d'argent dans ses mains. C'est vers elle que montent les prières des marins avant de prendre la mer. Oshum, vêtu d'une robe dorée, tient un miroir de cuivre jaune. Shango, dans son costume rouge et blanc, brandit une hache. Et Oshala, tout de blanc vêtu, serre royalement son sceptre.
Un extrait du roman de Françoise Lassalle, une cérémonie de camp d'Omblé, comme si on y était, grâce à vous. Alors effectivement, votre roman explique bien les cantiques, cette langue yoruba, qui est la langue africaine sacrée. On est vraiment au cœur des terreros dans ces lieux de culte de la religion camp d'Omblé, avec ses joueurs de tambour, ses trans, ses initiés. C'est aussi tout un exotisme et un dépaysement total. J'avais dit que nous voyagerions ce soir. Eh bien, avec votre roman, on peut le faire. C'est un roman, vraiment, je le répète devant vous, et je le dis haut et fort, je le clame au micro de Radio. C'est un très beau roman qui est très bien équilibré entre l'action avec ces paysans sans terre qui, effectivement, kidnappent ces Européens, mais pour faire parler d'eux, cette approche du pays dans sa beauté, dans sa diversité, dans l'approche de ses peuples, dans l'approche du camp d'Omblée, et puis ses préoccupations, cette réflexion que vous suscitez en nous, l'intérêt par rapport à ce grand pays où des gens malveillants essaient quand même de tout s'approprier et d'exclure les autres du partage des richesses. Le temps passe vite avec vous, Françoise Lassalle. Vous souhaitiez mettre l'accent sur un de vos personnages. C'est Eva, c'est une Brésilienne qui fait partie de l'équipage. Pourquoi ce coup de cœur sur ce personnage ?
Parce qu'elle est, un lien entre étant à la fois membre du personnel navigant de cet équipage et étant initiée dans la religion du camp d'Omblée. Elle est donc très révélatrice de ce qui se passe là-bas au Brésil, où les gens ont leur vie professionnelle. Vous pouvez très bien être médecin, avocat, ou femme de ménage, ou plombier, et pratiquer, se retrouver dans une même cérémonie, à égalité, en tant qu'initié, fils d'une divinité ou d'un dieu africain. Et il faut savoir, donc j'insiste sur le fait que ce n'est pas du tout marginal, que vraiment ces religiosités afro-brésiliennes accompagnent et rythment la vie quotidienne des Brésiliens.
Le Brésil, terre du vaudou et des rites ancestraux africains, on le retrouve, ce Brésil, au cœur de votre roman. D'abord, on est dans le ciel. Ce qui est amusant, c'est finalement une grande sérénité dans l'avion. Dès qu'on est au sol, ça se complique. Finalement, oui. Dès qu'on est dans le céleste, tout est calme, serein, j'allais dire presque luxe et volupté. Et dès qu'on est au niveau terrestre, alors là, c'est les enjeux, c'est l'ambition des hommes, c'est les combats, mais c'est aussi la beauté du camp d'Omblée, c'est le charme de ces transes. C'est amusant, oui. Cette espèce de...
Mais c'est un peu le choc des civilisations aussi, qui permet de confronter un peu ces croyances. Et d'ailleurs, les personnages ne sont plus les mêmes à l'issue de ce voyage, puisqu'ils se retrouvent un petit peu ébranlés dans leur certitude, en ayant découvert... Tant de choses, de richesses humaines. Bon.
Absolument, chacun sortira changé de cette aventure qui aurait pu si mal tourner. Eh bien, vous aussi, auditrices et auditeurs de Radion, lisez le roman de Françoise Lassalle, parce que vous aussi, vous en sortirez, tout comme moi, changé, enrichi, ébloui, séduit. Merci Françoise Lassalle d'avoir été ce soir devant le micro de Wagon Livre.
Merci à vous.
Le Salon du Livre de Paris vient de fermer ses portes et notre libraire avalonnaise, notre fidèle Evelyne Levallois, bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à
tous. Était au Salon du Livre de Paris, Evelyne. Et j'imagine que, bien sûr, on rencontre des éditeurs, on voit moult et moult publications. Ceci dit, il y en a déjà bien assez à la librairie L'Autre Monde. Et ce soir, un coup de cœur argentin.
Argentin, évidemment.
On va danser le tango à l'issue de l'émission.
Le premier roman d'Elsa Osorio s'appelait Tango, d'ailleurs, justement. Il y a quelques années, j'avais adoré un livre qui s'appelait Loup sous le temps sauvage, qui parlait des grands-mères de mai en Argentine, le vol des enfants des opposants par les tenants de la dictature. Et j'avais longtemps tourné autour du roman suivant d'Elsa Osorio, qui s'appelle La Capitana, que je vous présente aujourd'hui, publié ensuite Métellier. J'avais tourné autour parce que j'avais peur d'être déçu, tellement j'avais adoré les précédents. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai pas regretté. Je vous présente aujourd'hui un très beau roman basé sur une histoire vraie, la vie de Mika, de son vrai nom Micaela Feldman de Echeberrer, qui vécut de 1902 à 1992. Donc cette femme naît dans une famille juive européenne, on est au début donc, du XXe siècle, il fuit les pogroms de l'Est et le père pense trouver un Eldorado en Argentine, il achète une terre qui doit permettre à la famille de réinvestir toutes leurs richesses pour redevenir riche à nouveau, enfin en tout cas leur niveau de vie d'avant en Europe. En arrivant, ils découvrent qu'ils ont acheté rien, qu'on leur a menti, ils ont payé la traversée, ils ont dépensé tous leurs sous, ils n'ont plus rien, ils vont squatter cette terre qui n'est pas vraiment à eux, et tous leurs espoirs vont reposer sur leur fille, leur enfant. Hein, donc elle va faire des études, ils vont sacrifier pour ça. Elle, Mika, puisqu'on l'appelle Mika, est une étudiante brillante qui va rencontrer un certain Hippolito, dernier fils de famille d'une famille française installée en Argentine depuis peu. Il va devenir médecin, bon, un certain milieu quand même. Mais ces deux jeunes gens qui vont s'aimer à la folie vont militer ensemble pour les droits des juifs, pour les droits des natifs en Argentine, pour les droits aussi des peuples exploités, en général. Plutôt des années de gauche, hein, dans les années 20, en Argentine. De par leur famille et leur milieu, ils parlent toutes les langues du monde. Ils vont arriver en Europe. Alors avant d'arriver en Europe, ils vont parcourir toute l'Argentine comme anthropologue. Lui, il va soigner les pauvres. Mais il se trouve assez loin de la vie politique. Donc il décide d'arriver, c'est le début de la guerre d'Espagne, il décide d'arriver en Europe. Ils vont participer à la guerre d'Espagne. Elle va avoir sa propre compagnie. C'est un fait assez rare dans la guerre d'Espagne. Une femme qui va être capitaine, d'où le titre La Capitana, capitaine d'une compagnie. Mais comme elle est anarchiste et que les communistes vont très vite essayer de prendre le pouvoir et descendre les uns après les autres, tous les capitaines anarchistes pour reprendre le pouvoir, bien mal leur en a pris, hein, parce que finalement ils vont appauvrir leurs propres troupes et on sait comment ça se termine. Donc ils vont aussi partir en Allemagne, dans les mouvements spartakistes. Enfin vraiment un parcours, mais qui est un parcours réel. C'est romancé, c'est très bien écrit, c'est très fluide, c'est très engageant. Il y a un sentiment de roman d'aventure aussi. Donc vraiment un très beau livre.
Au cœur du XXe siècle, au cœur des tourments politiques et idéologiques du XXe siècle.
Voilà, on retrace un siècle d'histoire comme ça, mais plutôt du côté de la gauche, on va le dire comme ça. Un grand portrait de femme, forte, indépendante, très littéraire aussi, très romanesque.
Donc le titre de ce roman, c'est La Capitana, c'est traduit de l'espagnol par François Gaudry, l'auteur c'est Elsa Osorio, et c'est aux éditions Métellier. C'est donc le coup de cœur de la librairie L'Autre Monde à Avallon. Les coups de cœur, peut-être, quelles ont été les meilleures ventes ces derniers jours?
Pour aller vite, il y a Mémé de Philippe Torreton, En finir avec Eddie Bellegueule, Petit ventre heureux d'Isabella Aubrist, hein, pour laquelle qu'on avait reçu en dédicace, le nouveau Gavalda, qui s'appelle La vie en mieux, et le dernier Catherine Pancol, Muchachas, dont c'est le premier volume.
Merci Evelyne. Alors, quels sont les rendez-vous que tu proposes dans ta librairie?
Le 28 mars, nous aurons le plaisir de recevoir Élie Triz et Yannick Petit de Wagon Livre.
Oh, merci beaucoup, Evelyne, merci.
Les 4 et 5 avril, au festival de 3 étoiles à Avallon, il y aura une dédicace de Claudia Cardinal, même si ça ne se passe pas précisément à la librairie, mais au cinéma. Le 11 avril, une rencontre avec Noël Renaud et Yannick Petit, autour de son ouvrage Le Maquis Serge. Le 18 avril, une conférence de Sophie Mouchet sur Hélène Guimpier, cette femme peintre qui initia chez Sac à la peinture. Et ensuite, au mois de juin, nous recevrons Lola Lafont pour La petite communiste qui ne souriait jamais, Jacques Capla pour son livre sur l'agriculture bio, et plein d'autres projets, j'espère.
Merci Evelyne. Et donc, Élie Triz, eh bien, les auditrices et auditeurs l'entendront dans Wagon Livre le 2 avril prochain à 21h sur Radion. Merci Evelyne. Quelques petites informations qui vont également t'intéresser. La fête du livre d'Autun, les 12 et 13 avril prochain, en Saône-et-Loire, à Autun, bien évidemment, à la salle de l'Hexagone. Alors, on annonce Isabelle Alonso, Jean-Louis Beaucarneau, André Bercoff, Jean-François Bazin, Sandrine Colette, Didier Cornaille, Lucette Desvignes, une fidèle de la fête du livre d'Autun, Dominique Drouin, Antoine Gavory, Denis Grosdanovitch, Laurent Janin, qui fait paraître d'ailleurs son 4e carnet de voyage, qui a pour titre Éloge de l'adolescence éternelle, donc toujours illustré de photos en noir et blanc, Charles Juliet, Bernard Moreau-Gaudry, René de Obaldia, Gilles Paris, sur un plaisir de retrouver, Claudine Vincenot, Alain Rey, s'il vous plaît, ou Bernard Thomasson, qu'on peut entendre, je crois, sur les ondes de France Info, si je ne m'abuse. De toute façon, la liste des auteurs se trouve sur le site de Lire en Pays Autunois, www.lireenpaysautunois.com. Je mentionne également la sortie d'un hors-série de Bourgogne Magazine entièrement consacré aux saints, les saints bourguignons, les saints Bernard, saint Vincent, sainte Reine, sainte Bénigne et les autres, par Bernard Lecomte, c'est actuellement en kiosque, et puis le numéro 50 de Vent du Morvan est actuellement disponible avec un très beau dossier sur les nourrices, sur la galvache, et un beau dossier sur l'imprimerie La Ballerie, qui a été créée en 1925, et j'y ai appris d'ailleurs en feuilletant l'article, que La Ballerie c'est 64 personnes à Clamecy, environ 8 millions de livres imprimés en 2012, plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 20% en numérique, avec une clientèle diversifiée, Hachette, Gallimard, Editis, France Loisirs, les éditions Très Daniel, et 400 petits et moyens éditeurs. D'ailleurs, Vent du Morvan est désormais imprimé par La Ballerie. C'est la fin de ce Wagon Livre. Rendez-vous effectivement le 2 avril prochain à 21h sur Radion avec Élie Triz. On vous souhaite une bonne soirée. Bisous Evelyne et à très bientôt pour un autre coup de cœur. Au revoir.